Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Cette semaine dans Univox, Campus FM Toulouse vous propose une rencontre avec Charlotte Dewa-Roumez et Maxime Miquel de La Bulle, l'association Alpha des étudiants et étudiantes autistes en France. Made in Toulouse.
Est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre ? On peut peut-être commencer par toi, Charlotte.
Ok, donc moi je m'appelle Charlotte Dewa-Roumez, je suis doctorante en histoire de l'art contemporain à l'Université Toulouse de Jean Jaurès et je suis également la vice-présidente de l'association La Bulle sur le campus Jean Jaurès du coup, et je suis moi-même autiste.
Aujourd'hui je reçois Charlotte et Maxime.
Alors moi c'est Maxime Miquel, je suis étudiant en licence sciences de la Terre à l'Université Paul Sabatier et je suis le vice-président de La Bulle au sein de l'Université Paul Sabatier.
Et
je suis autiste également.
Le TSA, donc ça correspond à trouble du spectre de l'autisme, trouble du spectre autistique. C'est une particularité neurodéveloppementale, donc ce n'est pas une maladie, hein, ce n'est pas quelque chose dont on est atteint. C'est simplement le cerveau qui, au cours de la grossesse et de la petite enfance, se développe différemment. Donc c'est ni mieux ni moins bien qu'un cerveau non autiste, c'est simplement un cerveau différent. Et ça crée certaines particularités qui peuvent être handicapantes au quotidien. Donc ça peut être des particularités sociales, des particularités sensorielles, des problèmes par exemple dans l'organisation ou dans le fait de faire les tâches dans un certain ordre, etc. Mais fondamentalement, c'est simplement juste un cerveau qui fonctionne différemment. Personnellement, j'ai été diagnostiquée à 21 ans dans le courant de mes études. J'ai commencé toutes mes études jusqu'au master sans diagnostic et j'étais diagnostiquée en cours de route. Donc forcément ça a eu un impact sur la façon dont mes études se sont passées puisqu'après j'ai eu des aménagements etc. Donc j'ai passé toute ma vie sans diagnostic jusqu'au moment du master où ça a été un peu plus compliqué parce qu'évidemment avec les études, la vie adulte et tout ça, il y a plein de défis supplémentaires. Donc j'ai été diagnostiquée à ce moment-là et là aujourd'hui j'ai 25 ans donc ça fait 4-5 ans que je suis au courant que je suis autiste du coup.
Alors moi ça fait depuis 2012 que j'ai été diagnostiqué et en fait avant j'étais déjà suivi mais dans des centres, enfin CMPP, dans un CESAD et en fait il y a eu quelques doutes réels autour de 2012. Ils ont attendu en fait avant de demander le diagnostic auprès du CRA.
CRA, ça veut dire Centre de ressources autisme.
Donc ils avaient des doutes et ils ont voulu refaire des vérifications.
En fait, il y a, disons presque, une forme d'autisme par personne autiste. Avant, on avait des grandes catégories comme l'autisme Asperger, l'autisme Kanner, l'autisme de haut niveau, etc. Maintenant, ces catégories-là ont disparu. On parle simplement de TSA en général. Et justement, parce que comme tu disais, c'est un spectre, c'est-à-dire que... En fait, on est tous, toutes les personnes autistes sont concernées par les mêmes grandes catégories de particularités ou de symptômes. C'est simplement qu'on est chacun... touchés différemment par ces choses-là. C'est-à-dire qu'on va tous avoir des particularités sensorielles, par exemple, mais elles vont se présenter différemment et selon une plus ou moins grande intensité. Il y en aura un qui sera très sensible au son, l'autre pas très sensible au niveau de la vue, etc. Donc c'est juste, on est tous plus ou moins... En fait, on est tous différents, quoi. Mais selon le même modèle, quand même, c'est un peu compliqué à expliquer. J'avais autre chose qui me venait en tête. Ah oui, quand on parle de spectre, ça ne veut pas dire qu'on est plus ou moins autiste, parce que c'est souvent une idée que les gens peuvent avoir, qu'on est très autiste ou pas très autiste. Non, ça va, t'inquiète pas, toi ça va, t'es pas trop autiste, c'est quelque chose qu'on entend souvent. En fait, pas du tout. On est vraiment tous à 100% autiste quand on est autiste, c'est simplement qu'on est plus ou moins bien adapté à la vie quotidienne, à la vie normale, entre guillemets, et du coup, on va être plus ou moins visible aux yeux des gens en général. Je ne sais pas si c'est très clair.
Cette différence.
Là, c'est moi en train de poser une question dont j'étais plutôt fière en fait.
D'une étudiante autiste.
Quels sont les atouts des étudiants et étudiantes autistes?
Des atouts qui peuvent être.
Et ça, c'est la réponse.
En général, oui. Je ne sais pas si Maxime, tu veux.
Ça dépend vraiment des personnes autistes en fait. C'est très large. Certains ont beaucoup d'atouts et d'autres beaucoup moins.
En fait, comme dit Charlotte.
ça peut être un peu essentialisant en plus de... En fait, c'est des stéréotypes positifs, mais du coup, c'est des stéréotypes dans l'autre sens.
Même si ça partit d'un très bon sentiment, en demandant les atouts d'un autiste, en fait, je nie un peu toutes les différences qu'ils peuvent avoir entre eux. Dans le langage commun, on appelle ça mettre les gens dans des cases. Le tout, c'est d'apprendre pour s'en défaire.
Après, je comprends. C'est souvent une question qu'on pose parce que, en gros, quand on essaie de lutter contre l'image un peu pathologisante du handicap ou, je sais pas, les gens, ils ont tendance à trouver ça super lourd. On parle de handicap, oh là là, c'est triste et tout. Du coup, ils essaient de retourner le truc en disant, mais il y a probablement des bons côtés. Et ça reste quand même bizarre, en fait, je sais pas.
Est-ce qu'il y a, au niveau institutionnel, des aides qui existent, qui sont mises en place déjà, ou est-ce que c'est absent?
Peut-être tu veux parler d'Aspi Friendly.
Alors déjà, il y a Aspi Friendly, qui un dispositif sur 10 ans, qui propose de l'aide aux étudiants autistes. Donc avec et nous aide pour obtenir des notamment un preneur de notes, enfin des aménagements pour nous aider. Preneur de notes, la carte coupe-fil pour manger, plus, enfin passer plus rapidement parce que bon le bruit ça nous dérange en fait, c'est tellement horrible que enfin on est obligé de mettre des casques anti-bruit et enfin entre autres, ainsi que également parfois même les cours ou les amphis, c'est tellement problématique que quand il y a trop de bruit en fait on est obligé de mettre un casque et en fait pour parfois il y a des dispositifs où le casque en fait parfois il est connecté en Bluetooth avec le professeur directement pour pouvoir avoir le cours dans le casque plutôt que d'écouter le bruit à côté de l'amphithéâtre.
Ouais, okay. Il faut aussi des sensibilisations, par exemple pour les enseignants ou pour les lieux de stage, admettons. Un des gros problèmes des personnes autistes à l'université et dans le monde du travail, c'est les interactions sociales, en fait. Ce qui fait que si les gens ne sont pas forcément formés à qu'est-ce que c'est l'autisme et quels peuvent être les besoins, ils peuvent, ça peut créer des problèmes. Souvent, les gens interprètent les comportements autistiques d'une autre façon. Par exemple, en nous prenant pour des gens hautains ou super froids, pas empathiques du tout et tout. Donc, Aspi Friendly met en place des sensibilisations pour que les choses se passent mieux et qu'on se comprenne mieux mutuellement. On sait qu'il y a environ 500 étudiants qui sont suivis par le dispositif Aspi Friendly, mais c'est un chiffre qui est biaisé parce que déjà Aspi Friendly c'est pas présent dans toutes les universités de France. Ensuite, parce que toutes les personnes autistes se font pas reconnaître par les services handicap de l'université, donc c'est difficile de savoir qu'elles sont là. Et en plus, parce qu'il y a plein de personnes autistes qui sont pas diagnostiquées encore et qui seront diagnostiquées en cours de route. Donc en fait, c'est super difficile d'avoir des stats précises, même dans la population générale en fait. On estime qu'il y a environ 1% de la population française, enfin du monde même, qui est autiste. Mais en fait, on ne sait pas parce qu'il y a plein de problèmes diagnostiques. Toutes les personnes, comme j'ai dit, se font pas reconnaître forcément. Il y a des gens qui ont des diagnostics mais pas les bons, c'est-à-dire que souvent les femmes se font diagnostiquer avec un trouble bipolaire par exemple au lieu d'un trouble autistique, donc c'est vraiment super difficile d'avoir des chiffres précis et encore plus dans le monde universitaire du coup.
Peut-être qu'on peut parler un peu de la bulle.
Oui.
La bulle à Toulouse est l'association Alpha des associations d'étudiants autistes. En fait, il n'y en a que 3-4 en France. Elle est transuniversitaire, représentée par Charlotte sur le campus Jean Jaurès, par Maxime sur le campus Paul Sabatier. Et ils sont encore à la recherche de quelqu'un à Capitole.
Ça a été créé un petit peu... ça a été créé pendant le confinement, ou autour du moment du confinement. Donc on a eu une création légale beaucoup plus tardive que le moment où en fait on a commencé à se fédérer et à réfléchir à ça. Disons qu'on a été créé autour de 2019-2020. À la base, c'était 5 étudiants autistes, dont je ne faisais pas encore partie, qui se sont rendus compte qu'en fait, les personnes autistes étaient quand même relativement isolées à l'université et qu'on avait du mal à se rencontrer entre nous parce que les personnes autistes vont rarement à l'extérieur, vont rarement partie de clubs, etc. Donc, c'était difficile de pouvoir repérer les personnes qui pouvaient nous ressembler à l'université et se faire des amis. Donc, ils ont créé cette association-là au début avec vraiment pour principe d'organiser des activités entre nous, de faire des goûters, ce genre de choses. Et puis, petit à petit, on a commencé à se politiser un peu. Et en plus de ces activités justement que pour les autistes, vraiment entre nous, on commence à faire des actions de sensibilisation, ce qu'on est en train de faire là, venir parler de l'autisme dans les médias, en parler beaucoup à l'université, faire des campagnes d'affichage, etc., pour un peu changer la façon dont les gens pensent l'autisme et puis un peu revendiquer la façon dont on parle de nous, enfin, se réapproprier le discours. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Déjà, on organise des soirées d'intérêt spécifique, c'est-à-dire des soirées où chacun, ceux qui sont intéressés au sein de l'association, ils veulent faire une soirée sur un thème précis, par exemple les échecs ou par exemple le ping-pong, ils le présentent lors d'une soirée. Et donc, en fait, par contre, on a des conditions précises, c'est que si jamais... quelqu'un fait sa présentation, après il doit quand même être là pour l'autre présentation pour regarder l'intérêt spécifique de des autres personnes intéressées afin d'avoir un échange.
C'est ça. En fait, les personnes autistes ont souvent des passions pour certains sujets, sauf que on nous laisse pas trop en parler parce qu'on devient rapidement pénible avec. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait organiser des soirées entre nous où on pouvait parler librement de notre sujet favori sans interruption, sans gêner qui que ce soit. En fait, c'est un contrat tacite où on sait qu'on va parler pendant 3 heures des échecs et puis c'est parti là-dessus. Donc c'est un peu pour nous laisser un espace où on peut être nous-mêmes aussi parce que on peut être casse-pieds aussi parfois.
Permanence le soir sur le serveur Discord le mercredi de 18h à 20h. Ainsi que désormais des permanences durant la semaine, ça dépend des jours, dans notre local de l'université, Paul Sabatier, qu'on a obtenu cette année.
Ouais.
Un meilleur local.
Pour parler d'un peu tout et rien, j'ai l'impression, mais...
Oui, et également manger entre midi et deux, pour pouvoir se poser dans le calme. On essaie de l'aménager pour avoir des panneaux acoustiques. L'ancien local qu'on avait, il était tellement bruyant et il y avait trop de luminosité que c'était problématique. Au niveau de notre nouveau local, il y a moins de... le bruit est déjà atténué, même si la pièce est grande. Et la luminosité, elle est bien moins importante avec des fenêtres que d'un mètre, alors qu'avant, c'était des grandes baies vitrées sur tout un mur.
Oui, en plein soleil.
Ok, donc c'était pas vraiment adapté au projet.
Alors déjà pour cette année, on a il y a eu des cours de langue des signes français LSF que cette année il y avait des membres de notre association qui le faisaient. Et donc cette année on espère passer avec quelqu'un qui a proposé des cours avec on a rencontré quelqu'un Sarah je sais pas si on peut le dire mais elle proposait des cours gratuitement. Donc on va voir, on va essayer de continuer avec elle, et peut-être en espérant peut-être un financement pour pouvoir la payer parce que toute activité mérite quand même salaire un peu on va dire. Et après qu'est-ce que j'allais dire, on va continuer les permanences pour cette année. Dans le local il va y avoir des activités, des goûters. On espère peut-être un par mois ou un tous les 2 mois, ça dépend. Et les permanences, elles seront assez disparates. Ça dépend des jours et de la semaine, si elle est chargée ou pas. Donc, il y aura, comme il y a 2 personnes qui ont les clés, donc ça sera... Il y aura ça dépend des disponibilités, donc peut-être que toute l'après-midi, il y aura le local qui sera ouvert, mais ce sera peut-être une personne peut-être pour 1 heure, et après le reste de l'après-midi sera pour quelqu'un d'autre. Ça dépendra vraiment des jours et des disponibilités de chacun.
Je crois avoir vu que l'association se dit composée d'étudiants et étudiantes autistes et alistes.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez me définir le terme aliste?
Aliste, c'est les personnes qui sont non autistes mais qui appartiennent à l'association. C'est ça.
En gros, c'est conçu de façon à ce que le bureau soit majoritairement composé de personnes autistes et bien sûr l'association est principalement composée de personnes autistes. Mais on a aussi plein de personnes qui sont neuroatypiques mais pas autistes, c'est-à-dire qui ont une autre particularité de développement du cerveau comme le trouble de l'attention, les troubles 10, etc. Mais en fait, il y a aussi des personnes qui sont juste intéressées par le sujet, qui veulent donner un coup de main parce qu'ils trouvent que c'est un... je sais pas, une cause qui leur plaît et qui du coup peuvent tout à fait participer. Simplement, forcément, ils prennent une part moins importante aux décisions. Voilà. Actuellement, dans le bureau, on a Laurie, qui est une service civique payée par RSP Friendly, pour nous donner un coup de main. En gros, c'est une personne qui n'est pas autiste et dont le rôle est de un peu pallier aux problèmes que nous, on pourrait avoir en termes d'organisation, de contact avec les gens, etc. Donc, elle est un peu les petites mains de la bulle et elle n'est pas autiste, du coup. Bah, c'est une mixité choisie, quoi. C'est, voilà, elle est contrôlée.
Une volonté que... de communauté, un peu. Fin...
Ouais, puis... Il y a un danger... Alors, on va partir dans des trucs politiques et tout, mais... un peu de récupération parfois par certaines personnes qui sont pas concernées par le sujet mais qui vont un peu se donner genre un air de remplir une bonne cause, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est souvent vivre, alors là, ça serait un peu me faire taper sur les doigts, mais par les parents de personnes autistes par exemple qui vont vachement se mettre en avant, genre ouais, vous rendez compte tout ce que je vis en tant que parent de personnes autistes, l'autisme je connais et tout, alors qu'en fait elles sont pas concernées, mais elles se mettre un peu en avant à travers ce biais-là, je sais pas comment tu
vois. Oui, voilà, et puis ça donne du coup une image des personnes autistes
biaisées,
aussi différente, quoi. Mm-mm-mm. De c'est quelque chose de grave, comme tu disais au début, quelque chose de grave qui influe même sur l'environnement, etc.
Oui. Après, ça reste comment dire. Je dis pas non plus que c'est pas un problème d'être autiste, en fait. Quand je dis c'est ni bien ni mal, c'est fondamentalement. Ça n'est ni bien ni mal. Mais en fait, on est quand même handicapé par le fait d'être dans une société où rien n'est adapté pour les personnes autistes. Donc, en fait, je ne dis pas que ce n'est pas problématique d'exister en tant que personne autiste. C'est simplement que fondamentalement, c'est juste une différence. Quoi. C'est pas... Je ne sais pas si c'est très clair comme
nuance. Non, mais je vois, c'est une position un peu dure à trouver d'équilibre. Quoi.
Ouais,
et qu'il
faut
sensibiliser. Vous direz que c'est. Si on parle de sensibilisation, vous direz que c'est quoi le message à.
En fait, c'est compliqué parce qu'on est toujours bloqué dans une double peine qui est que si on veut avoir des aménagements et que les gens nous aident, on est obligé d'insister sur les mauvais côtés de l'autisme. Typiquement pour l'université, on est obligé de dire « Ouais, voilà, j'ai vraiment besoin d'un tiers-temps parce que je galère avec ça, c'est super difficile et tout. » Alors qu'en fait, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que l'autisme, c'est juste une différence et que si on avait l'adaptation nécessaire et les aménagements nécessaires, on serait juste aussi heureux et épanoui que n'importe qui d'autre. C'est un peu compliqué parce qu'on est vraiment bloqué au milieu de ces deux discours-là qui sont super contradictoires en fait. Je sais pas ce que t'en penses, Maxime. Mais...
C'est vrai que ça, en fait, quand on oublie de mettre nos points négatifs, en fait, ça pose problème parce qu'on n'ose pas trop le dire et en fait, c'est perturbant quoi. On n'ose pas demander de l'aide alors qu'en fait il faut demander de l'aide par nous-mêmes parce qu'on sait très bien que en fait si jamais on ne demande pas d'aide nous autistes en fait on est laissé à l'abandon quoi donc je dirais que si jamais le message à faire passer c'est peut-être de pas hésiter à se faire aider si jamais vous autistes vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à demander de l'aide.
Ouais, complètement. En fait, l'idéal, l'utopie, comme tu dis, ce serait qu'on reconnaisse que tous les gens ont des particularités différentes. En gros, tout est extrêmement normé, en particulier l'université. Genre, il y a un système de notes, il y a un calendrier extrêmement précis. Tout est ultra codifié, en fait. Alors que, mais pour les personnes autistes, comme pour les personnes dont la langue maternelle n'est pas le français, pour les personnes en situation de handicap en général, en fait... Il faudrait pouvoir s'adapter à chaque situation. Il faudrait que les choses soient suffisamment flexibles pour que toutes les personnes puissent avoir accès à l'éducation, puisque c'est le sujet à la vie à l'université, en général, comme le restaurant universitaire, les associations, les loisirs, etc. Il faudrait que tout soit, j'aime pas le mot inclusif, mais accessible, disons. Parce que pour l'instant, c'est vraiment pas le cas.
Est-ce que vous savez si en France, on est en avance, en retard?
Alors là, je pense qu'on peut être d'accord, Charlotte. Je pense qu'on est assez en retard. Et plus les années passent, en fait, et j'ai l'impression que c'est presque de pire en pire, en fait.
Ouais. Ah ouais, ça.
C'est, je crois que vous avez vu, il y avait un reportage sur M6. Ils avaient parlé, on va parler un peu dans la politique, mais ils avaient parlé un peu de la maison de l'autisme. Mais en fait, le problème réel en France, c'est que les personnes, en fait, elles ne sont pas formées, quoi.
Ouais.
Donc, elles n'ont pas formé à l'autisme. Donc, pour nous aider, en fait, c'est extrêmement compliqué. En fait, on doit se former... Enfin, nous, autistes, en fait, on doit se former par nous-mêmes, en fait.
Ouais, c'est clair.
Et même parfois, les méthodes, en fait, pour nous former, en fait, elles sont parfois peut-être plus trop adaptées, quoi. Enfin, ça dépend.
Mmh. Et ABBA, mais... ouais, en fait, la France, c'est un groupe assez psychanalytique aussi. Et la psychanalyse et l'autisme, ça fait vraiment pas bon ménage. C'est-à-dire que, par exemple, il y a toute l'idée des mères frigos, où en fait, les enfants autistes, ce serait causé par les mères qui sont pas assez affectueuses avec leurs enfants ou qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Et du coup, quand l'enfant naît, il est autiste parce qu'on l'aime pas. Plein d'idées comme ça, où en fait, on blâme énormément les parents. Il y a du coup à cause de ça tous les problèmes d'accès au diagnostic. Donc les parents, quand ils remarquent que leur enfant est différent et qu'ils essaient de lui faire passer des tests, ils vont voir des psychologues en face qui leur répondent mais non, c'est pas qu'il est différent, c'est que vous l'élevez mal ou que vous lui donnez pas assez d'affection ou quoi que ce soit. Ce qui fait que les parents se retrouvent complètement démunis, sans réponse, avec une énorme culpabilisation de la part du corps médical. Les enfants sont paumés parce qu'ils ont pas de diagnostic. Et après, il y a un... Ouais, enfin, ça, du coup, ça a vraiment vachement de conséquences. Même à l'âge adulte, en étant diagnostiqué, je tombe encore sur des psychologues qui ont des réponses psychanalytiques envers moi. C'est-à-dire que je dis, ben, ouais, je peux pas aller dans un supermarché parce qu'il y a trop de bruit. Et ils me répondent, mais quelles sont vos émotions par rapport à ça? Ben, je sais pas, j'ai mal aux oreilles. Voilà. Enfin, je sais pas, pardon, je m'énerve, mais c'est relou. Non, mais... Et y a aussi vachement de laxisme par rapport aux thérapies qui sont utilisées. Donc, on ne guérit pas de l'autisme. Hein. On est autiste, on meurt autiste, on va rester autiste toute notre vie. Mais il y a quand même tout un tas de thérapies extrêmement intrusives qui sont utilisées sur les enfants, sur les jeunes adultes, etc. pour les améliorer, les guérir, entre guillemets. Et notamment ce qu'on appelle ABBA, qui est globalement une thérapie de conversion pour autistes. Ça a été créé par la personne qui a créé les thérapies de conversion pour les gays, hein, à l'origine, pour les personnes homosexuelles. Où, en gros, quand l'enfant va avoir des comportements autistiques, on va le punir. Et quand il va réprimer ses comportements autistiques, on va le récompenser. Ce qui fait que l'enfant, il va intégrer que... il va intégrer que tous ses comportements autistiques sont mauvais. Il va complètement réprimer sa personnalité. Et on va lui apprendre, en gros, à refuser d'avoir des limites, quoi. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne va pas aimer être touché, eh ben on va le forcer à avoir des câlins de la part de ses parents et on va le récompenser. Ce qui fait qu'il va juste complètement désapprendre le fait d'avoir des limites avec son propre corps, quoi. Enfin, c'est super problématique. Et ça existe encore en France. Comme l'épisode du packing, où quand une personne autiste fait une crise d'angoisse, on l'enroule dans des draps gelés pour que le choc thermique la calme. Ouais, ça existe encore.
Waouh, ça existe encore en France?
Oui. Alors, ABBA, c'est complètement autorisé et validé. Il y a plein de formations ABBA partout, constamment. La plupart des professionnels qui travaillent sur l'autisme sont formés à ABBA. Le packing, il me semble que c'est assez réprouvé encore, mais c'est encore pratiqué dans certains centres, etc. En tant que personne autiste qui somme à l'université, en fait, on est juste une extrême petite portion très privilégiée des personnes autistes. Comme je te disais tout à l'heure, on estime qu'il y a environ 1% de la population mondiale qui est autiste. Et pourtant, on n'est que 500 élèves autistes à être suivis par Aspie Friendly. C'est minime par rapport à la quantité de personnes autistes, à la quantité de personnes qui vont à l'université. Donc, on est vraiment une portion super privilégiée, tu vois.
Certaines personnes autistes, parfois, peuvent refuser Aspie, en fait. Sont refusées parce qu'ils n'ont pas de diagnostic auparavant. Officiel, et donc quand ils sont en cours de diagnostic, après, en fait, au début, en fait, on les refuse, et après, c'est définitif.
Ouais. En gros, ce qui veut dire, c'est que pour avoir un suivi à l'université, il faut avoir un diagnostic officiel, il faut avoir des papiers officiels, ce qui fait que les personnes qui sont en questionnement ou en cours de diagnostic, qui savent qu'elles ont des difficultés, mais qui n'ont pas de papier avec vraiment le mot autiste écrit dessus, autiste ou quoi que ce soit, elles ne peuvent pas avoir d'aide, en fait. On leur refuse leur tire-temps ou ce genre de choses. Donc forcément, ça cause encore d'autres difficultés. Voilà. À la fois sur l'autisme et en recommandation culturelle, moi je recommande la série Extraordinary Attorney Woo sur Netflix, qui parle d'une avocate autiste en Corée, donc c'est un drama coréen. Objection. C'est un poil stéréotypé dans la représentation de l'autisme, mais ça parle quand même de sujets super justes. Il y a plein de problématiques de l'autisme qui sont extrêmement bien rendues et c'est super mignon, donc je recommande ça. une page Instagram, et on va avoir bientôt un site internet, mais on a une page Instagram si les gens veulent se tenir au courant des activités qu'on fait, des permanences du local, parce que même si on est une association entre personnes autistes, on fait pas mal de choses des fois qui sont dirigées vers l'extérieur, notamment les sensibilisations, où on peut participer à des activités. Là, on a été contacté il y a pas longtemps par une association de biologie, d'escapades en nature, en gros, d'entomologie, trucs comme ça.
La dryade.
C'est ça, pour leur faire une sensibilisation à l'autisme. Donc on est sollicité par d'autres associations pour les sensibiliser à l'autisme. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour voir un peu nos actions, ce genre de choses, c'est l'abus d'autisme sur Instagram, on exploite facilement.